Ce samedi 18 novembre à 10h à Saint-Julien-en-Vercors se tiendra l'AG annuel de la FOPE. Je reçois Catherine, une des 22 coprésidentes de cette association, pour nous parler un peu du bilan moral de cette association. Alors Catherine, bonjour.
Bonjour.
Et peut-être tu peux nous rappeler quand même qu'est-ce que c'est que la FOPE pour commencer.
Oui, la vieille FOPE, c'est la Fédération des Amis et Usagers du Parc du Vercors, qui a été créée en 1970, c'est-à-dire avant le parc. C'est elle qui a en fait porté la création du Parc du Vercors en 73. Donc c'est une très vieille association qui ressort de temps en temps. C'est vraiment une vieille taupe, quoi. De temps en temps, elle ressort. Et depuis le début, alors au début, elle a eu un rôle institutionnel, mais depuis quand même pas mal de décennies maintenant, elle a un rôle de veille des associations et des habitants du Vercors par rapport à ce que devient le parc, quoi, ce que devient le massif du Vercors aussi. Voilà.
Et il me semble qu'elle s'est illustrée par le passé, dans plusieurs combats importants dans le parc et pour le Vercors.
Oui, par exemple, elle a participé à la création de la réserve il y a une trentaine d'années, un peu plus, avec Vercors Nature, c'était pour s'opposer à un projet qui aurait détruit les hauts plateaux. Et voilà.
Ce genre d'action.
Contre les rallyes, par exemple, il y a eu des arbres coupés sur les routes contre les rallyes à certaines époques.
Ok. Et ça fait quelques années que elle a été un peu reprise, cette association, parce qu'elle était en dormance, on pourrait dire, elle était en veille. Et puis tout d'un coup, il y a un petit groupe d'habitants, habitantes qui se sont mobilisés pour s'en servir, utiliser cette association. Peut-être tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé, cette histoire ?
Surtout quand on a découvert qu'il y avait un projet du département de la Drôme qui s'appelait les Sublimes Routes du Vercors et qui était un projet avec 17 sites, parkings, installations, etc. partout dans le Vercors pour valoriser les Sublimes Routes, c'est-à-dire des endroits où on se déplace quand même en général en moto ou en voiture. On a pris peur, quoi. Tu vois, on a pris peur. Et donc, il y a un groupe qui s'est monté pour travailler sur cette question. Et du coup, il y a eu une rencontre avec la FOPE. Et c'est la FOPE qui a tout repris, quoi, en se renouvelant, du coup, avec beaucoup de gens beaucoup plus jeunes, quoi.
Mmh. Et du coup, c'est coprésidente. Parce que du coup, là, la gestion s'est passée, s'est transformée, quoi. On n'est plus avec un président ou une présidente, un trésorier, une secrétaire.
Voilà, c'est devenu complètement collégial. Puis il y a des groupes, si tu veux, on essaye quand même de... Donc au départ, c'est parti d'un groupe de gens du Royan, mais très vite, il y a eu des gens du plateau du Vercors. Il y a des gens du Diwa, il y a un groupe important dans le Diwa parce qu'il y a des gros projets Sublimes Routes dans le Diwa encore. Et puis, il y a aussi un groupe Quatre Montagnes, même si en fait c'est leur question autour du projet Tony Parker, etc. Et c'est très autonome, quoi. Le groupe Vercors Citoyen est très autonome, mais on est en lien.
Et du coup, si on se rappelle un peu, là, durant ces trois dernières années, la FOPE s'est distinguée surtout, donc, comme tu le disais, sur le projet des Sublimes Routes du Vercors, porté en particulier par le conseil département de la Drôme. On en est où avec ce projet-là par rapport à ça ?
Alors, ces deux dernières années, on s'y est opposé, donc, à ce projet. Mais cette opposition a évolué dans les formes et dans ce qu'on disait aussi, à la fois au gré des rapports de force avec le département, mais aussi au gré de l'évolution du projet, parce que en 2023, l'abandon d'un grand nombre d'aménagements de belvédères prévus initialement a été acté. C'est-à-dire que d'une part, on a réalisé que le département de l'Isère était pas du tout partant pour les 8 belvédères dont il aurait eu la charge, et dans la partie drômoise, il y a eu des refus de vente des paysans, des fameux terrains qui devaient servir de parking et de belvédère. Les paysans, donc au col de la Bataille, au col de Limouche, à Léoncelle. Donc il y a trois lieux où ce sont les paysans qui ont refusé de vendre les terrains nécessaires et les projets ont été abandonnés.
Donc ça a été aussi une résistance des propriétaires terriens, finalement.
Oui. Oui, je pense qu'ils n'avaient pas vraiment envie de devenir un lunapark, quoi. Bon, et donc du coup, ce qui reste aujourd'hui, il reste le col de la Bataille, où les travaux, disons que les installations sont à peu près finies, mais il n'y a pas de parking, parce que ça, voilà. Il reste le col du Rousset, qui était de toute manière, qui est une station de ski qui appartient à la Drôme et qui vieillotte, quoi, qui a besoin de toute manière d'être relooké. Donc ça, c'est un projet qui aurait existé indépendamment des Sublimes Routes. Et il reste la Jarjat dans le Diwa, où les travaux n'ont pas démarré. Et alors, comme le département a perdu plein de sites, finalement, il s'est empressé de sublimer des projets qui étaient vraiment là, pour le coup, des demandes des habitants ou des communes, comme la réinstallation du CLAP à Châtillon-en-Diwa, à Luc-en-Diwa, je crois, qui est hors PNR. Et donc sur la Drôme, là, cet endroit où il y a tout le temps plein de gens l'été, et le pont du tram à Saint-Jean-Royan qui va être sublimé aussi.
Tu peux nous en dire quelques mots sur le pont du tram ?
Oh, non, j'en sais pas plus. C'est des projets qui vont se faire dans les 2 ou 3 ans, mais il va être remis en circulation pour les piétons, les ânes et les vélos.
Ce qui est attendu fortement par les habitants et habitantes du territoire.
Ouais.
Et donc ce projet-là sur les Sublimes Routes sera donc une ampleur très réduite finalement parce que, donc là comme tu viens de le dire, et pas mal de projets ont été abandonnés et du coup il en reste quelques-uns. Alors est-ce que la FAUB va poursuivre la lutte ou est-ce que vous pensez que l'abandon de ces plusieurs dizaines de projets-là, la plupart des sites, est-ce que ça c'est déjà une victoire ?
On pose pas les choses dans ces termes, on préfère répondre en faisant une sorte de pas de côté. Parce que, indépendamment des travaux réalisés ou non, le fait qu'existe un label et une communication sur les Sublimes Routes, et ça continue, ça nous pose problème. Parce que ça signifie que, au-delà de leur utilisation actuelle, ces routes vont servir de vitrine. Le col de la Bataille et Rousset, il y a des œuvres artistiques, enfin dites artistiques, et c'est les cols qui donnent sur la plaine, quoi. C'est les cols où on arrive de Romans, de Léon, de Valence, etc. Du Diwa. Enfin, donc c'est vraiment la vitrine du Vercors côté plaine. Donc ça fonctionne vraiment comme une vitrine. C'est un label. Il y a une voilà.
Pour faire venir les touristes.
Pour faire venir les touristes. Alors, on reste dans le domaine des touristes régionaux, finalement, comme avant. Mais en même temps, depuis le Covid, on a des touristes nationaux, quand même. On a eu beaucoup plus de motos et de voitures de sport qui viennent d'un peu toute la France. De la Suisse, peut-être, enfin, voilà, de l'Allemagne. Mais disons que la cible qui, à un moment donné, la cible officielle, quand même, c'était les trentenaires qui n'ont pas encore d'enfants et qui ont des sous. Donc les jeunes cadres de toute l'Europe. C'était ça la cible des Sublimes Routes. Voilà, et ça, pour le moment, c'est sans doute mis de côté. Bon, mais ceci dit, nous, ça nous pose un problème parce qu'il ne nous paraît pas raisonnable de promouvoir ce patrimoine routier sans créer plus de fréquentation routière dans le Vercors. De fait, c'est ça qui se passe. Alors qu'il y a déjà beaucoup de motos et de voitures. Que les habitants nous le rappellent sans cesse, quoi. Il y a eu une manifestation, par exemple, à Saint-Martin en Vercors contre le bruit, quoi, et les voitures.
Donc ça nous agace. La fréquentation pose déjà beaucoup trop de problèmes. Il y en a déjà trop, quoi.
Voilà. Le bruit, la pollution, tout ça nous agace. Donc la FAUP souhaite maintenant porter cette question comme un problème politique. C'est-à-dire que est-ce que notre avenir souhaitable, c'est celui d'un tourisme à tout prix, à base d'aménagement routier, autour duquel s'organise la spéculation immobilière et la construction de complexes hôteliers. Voilà, est-ce que c'est ça qu'on veut tous sur le Vercors ? Donc au mois de mai, nous avons organisé une manifestation au col du Rousset, où on a commencé à se rencontrer à plusieurs pour discuter de ça. Et lors de l'AG, là, ce samedi, il y aura un atelier qui va réfléchir sur cette question du tourisme motorisé.
Il va y avoir plusieurs ateliers pendant l'AG, c'est ça ?
Il va y avoir en fait 2 temps forts, en plus de l'AG statutaire. Un temps de rencontre avec les différents collectifs du Vercors, c'est-à-dire à la fois du Vercors, donc côté Diwa, côté Quatre Montagnes et côté Royan. Et les comités locaux des soulèvements de la terre, donc celui de Die et celui du Royan-Vercors et celui de Grésivaudan.
Un autre sujet maintenant important, cher à la FOP, la chasse, si j'ai bien suivi. En 2022, Jean-Pierre Barbier, qui est donc président du conseil départemental de l'Isère, a restauré la chasse sur les 4000 hectares de la réserve nationale naturelle des Hauts Plateaux du Vercors, appartenant au département. Donc un faux prétexte de l'aboutissement de la forêt par les cervidés. Ça, on en avait parlé d'ailleurs sur les ondes de Radio Royan. Qu'en est-il maintenant? Comment la FOP travaille ce sujet?
Alors, là, il y a eu des victoires quand même. Le tribunal administratif en référé qui a été saisi à la demande de l'ASPAS et de la FRAPNA 26, c'est-à-dire la FOP avait fait des démarches préliminaires, puis pour des raisons d'objet des assauts, il valait mieux que ce soit l'ASPAS. Et... Donc ça a marché. La chasse a été suspendue pour la saison 2022-2023. Et parallèlement, Jean-François Noblet, qui est une figure naturaliste locale, qui avait été poursuivi en diffamation quand il avait révélé l'affaire, il avait été poursuivi par M. Barbier, il a gagné en appel en juillet 2023 contre Barbier, c'est-à-dire le président du département de l'Isère. En réponse à une question de l'avocat de M. Noblet, Jean-Pierre Barbier a répondu qu'il ferait plus de demandes de plans de chasse dans la réserve jusqu'à ce que le tribunal administratif se prononce sur le fond. La représentante du département de l'Isère au comité consultatif de la réserve s'est engagée de même à plus de demandes. Or, on a appris début septembre que la fédé de chasse avait octroyé un nouveau plan de chasse pour tuer 9 cerfs durant la saison 2023-2024. C'est-à-dire qu'ils ont menti. Pour nous, c'était trop tard pour demander l'annulation en référé au tribunal administratif, parce qu'on a fait confiance, en fait, on a cru leur parole, et donc on n'a pas surveillé, quoi. Mais ils ont menti, quoi. Et donc, ce qu'on espère, c'est que les juges n'apprécieront pas vraiment une telle hypocrisie devant la justice et qu'ils en tiendront compte lors du jugement de fond.
Du coup, vous êtes fait devancer, en fait, par leur...
Complètement devancé, ouais.
Et du coup, qu'est-ce que peut faire la FOP dans un tel cas?
Eh ben, on va continuer à veiller. Je pense qu'il va y avoir des recours. Enfin, voilà, on va continuer les actions juridiques, quoi. Et puis, surtout, on attend le procès sur le fond, quoi.
C'est intéressant de voir que sur cet exemple-là, c'est bien parce qu'il y a des associations qui sont en veille. Qu'il suffit pas de boire les paroles des personnes qui vont dire non, on va plus faire de chasse là-haut. Il faut rester en veille. Il faut rester en veille.
Le juridique est un vrai outil. On avait aussi fait une pétition qui avait recueilli plus de 100 000 signatures, hein, quand même. Donc parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que la réserve naturelle des Hauts Plateaux, qui couvre donc 17 000 hectares et qui est la plus grande réserve de la France hexagonale. Sur ces 17 000 hectares, il y a 11 000 hectares chassables. Ça a été la condition au départ avec les communes pour qu'elles acceptent que leur terrain soit mis en réserve, quoi. Mais, donc il y a 11 000, ça veut dire qu'il y a eu 2 600 hectares qui ont été mis en réserve biologique intégrale.
Tu peux rappeler ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'on chasse pas. Et qu'il n'y a pas d'exploitation forestière, mais de toute manière, il n'y en avait pas. Et qu'on chasse pas, c'est au niveau de la route de Prérato, et quand on monte vers Thiolage du Bas, Thiolage du Milieu, etc. En fait, on voit pas la différence, hein, entre la RBI, la réserve biologique, et à côté, quoi. C'est-à-dire, on voit beaucoup d'arbres morts sur pied. Voilà. Mais il y a peut-être beaucoup d'arbres morts sur pied parce que ils souffrent de la sécheresse aussi. Et parce qu'il y a du scolite, peut-être. Je sais pas s'il y a il doit y avoir des épicéas quand même là-haut. Donc, il y a d'autres raisons, quoi, si tu veux. C'est pas juste parce qu'on les enlève pas et parce qu'on les laisse vieillir naturellement. Donc, vieillir mort sur pied puis ensuite par terre. Je pense que c'est qu'il y a aussi un problème de sécheresse quand même là-haut. Voilà. Et donc, en fait, les seuls endroits où il n'y a pas de chasse, c'est ces 2600 hectares de réserve. Et il y avait les 4000 hectares de la propriété du département de l'Isère, qui étaient classés en réserve de chasse, espace naturel sensible, zone Natura 2000, zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Excusez du peu.
Et donc là, c'est dans ces 4000 hectares que
l'événement dont tu parlais. Neuf cerfs vont être tués cet automne, cet hiver. Et puis ce qui est ennuyeux, c'est que c'est des 14 corps là-haut, c'est des très beaux cerfs quoi qui se réfugient là-haut, et que quand on tue et qu'ils veulent faire du trophée, évidemment, c'est une chasse qui est réservée aux agents du département, hein, c'est pas une chasse
c'est
ouverte
ça qu'il
à tout
faut
le monde.
Privilégier.
Oui, il y a un côté quand même droit féodal quoi. Et c'est des belles bêtes quoi, et c'est ennuyeux pas seulement parce qu'il y a moins de belles bêtes, mais c'est ennuyeux parce que ça réduit énormément le patrimoine génétique si tu tues les plus beaux quoi. Ils font des bébés, c'est beau cerf.
Et dans ces 4000 hectares, donc qui, on le rappelle, sont un peu la propriété du département, mais du coup qui mettent au service que des privilégiés de l'amicale des agents chasseurs du département de l'Isère, la chasse y était interdite. Avant.
Elle était interdite depuis que cet espace avait été classé en... J'ai été interdite depuis 30 ans, quoi. Il n'y avait pas de chasse, quoi. Et c'était un des seuls endroits, quand même, de la réserve où il n'y avait pas de chasse.
Bon, alors si on poursuit pour la FAUPE, est-ce qu'il y a d'autres perspectives?
Oui, il y a d'autres perspectives. On a décidé de partir plus sur des projets d'enquête. Donc il y a un groupe qui s'est lancé sur des enquêtes logement, parce qu'il y a un gros problème quand même de logement aujourd'hui pour les gens qui habitent le Royan et tout le Vercors, et pour les saisonniers aussi. En fait, il y a beaucoup de logements qui passent en Airbnb. Voilà. Donc il y a des constructions, mais c'est des constructions de resort 4 étoiles. Voilà. Donc il y a un vrai problème de logement. Et puis nous est venue aussi l'envie de plonger dans le bassin versant de la Bourne.
Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, rapidement?
Alors, le bassin versant, ça veut dire, en fait, c'est tout le Vercors. C'est-à-dire, c'est toutes les eaux, tous les affluents souterrains. La Bourne a beaucoup d'affluents souterrains. Par exemple, la Vernaison est à 80% en affluents souterrains dans la Bourne. Les affluents terrestres et même des affluents aériens. Parce que l'autre jour, j'étais à Pont et j'ai vu que la pluie, quoi. Toutes les maisons suspendues, la pluie tombe dans la Bourne. En fait, c'est...
Donc ça devient propriété, enfin...
Ça devient... Voilà.
Ça appartient à la Bourne, quoi.
Donc la Bourne et les eaux viennent, y compris de Fondure, du Grand Vémont, etc. Quoi. Ça représente le bassin versant, c'est tout le Vercors.
Donc qu'est-ce qui va se passer avec ce bassin versant? Qu'est-ce que vous allez faire?
Alors ce qu'on aimerait faire, c'est faire du lien justement entre tout le territoire, en croisant les savoirs paysans, vernaculaires, hein, ça veut dire les savoirs autochtones, quoi, les savoirs militants, les savoirs scientifiques et les savoirs artistiques sur la question de l'eau. Donc on va enquêter, on lance une grande enquête qui a démarré, il y a déjà eu une première semaine d'enquête avec des étudiants d'une école parisienne qui sont venus au mois d'octobre à Pont-en-Royan. Voilà, on va se demander c'est quoi l'état des rivières et des ressources en eau sur notre territoire, d'où vient l'eau qui est à notre robinet par exemple. Et où est-ce qu'elle va? Voilà, on va enquêter sur tous les aspects, les pêcheurs, les institutions, le canal de la Bourne, quelle responsabilité on a en tant qu'amont par rapport à l'aval pour irriguer la plaine, et qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi cette histoire-là qui a développé toute la filière ovine dans la plaine de Valence? Les barrages, voilà, il y a énormément d'infrastructures dans le Vercors. Voilà, l'idée c'est ensuite de restituer toutes ces enquêtes par de la cartographie habitante, quoi, une cartographie subjective et faite à notre sauce, et par une fête début juillet pour célébrer le bassin versant de la Bourne.
Rendez-vous est pris pour ce temps fort en juillet, on aura l'occasion d'en reparler.
Ouais.
Bon, alors du coup, cet AG, est-ce que tu peux nous rappeler quand c'est et est-ce que tu as quelque chose à annoncer par rapport à ça?
Donc, tout le monde est invité. Il n'y a pas que les adhérents qui sont invités. Vraiment, tous les curieux et curieuses sont absolument invités à venir ce samedi 18 novembre, donc à la salle des fêtes de Saint-Julien-en-Vercors, à 10h. Donc, il y aura un accueil, etc., un café à partir de 9h30. L'AG statutaire ensuite, Et ces deux temps forts dont on a parlé, donc à 11h30, un temps d'échange sur les actualités et luttes avec les collectifs actifs sur le massif du Vercors et les comités locaux de soulèvement de la terre. À 12h30, la FOP offre une soupe d'automne et un houmous. Donc vous pouvez venir manger avec nous, apporter un peu de quoi boire et compléter les fromages, les tartinades, tout ça. Et à 14h, il y aura un atelier de discussion sur le tourisme motorisé et les sublimes routes.
Ok, et ben, merci Catherine d'être venue au micro de Radio Royan ce matin. Et rendez-vous samedi pour cet AG de la FOP.
Merci Céline.